Bienvenue.
Les gens me demandent tout le temps, qu'est-ce que je peux faire pour agir? Vous pouvez planter un arbre. Que vous le plantiez dans votre propre jardin ou que vous payez pour faire planter des arbres en Tanzanie, que ce soit à la campagne ou en ville, c'est quelque chose que vous pouvez faire.
Eh oui, il y avait le célèbre manger des pommes de Jacques Chirac, il y a maintenant le planter des arbres de Jane Goodall, l'anthropologue britannique venu soutenir à Davos le programme One Trillion Trees lancé par le Forum économique mondial. Un forum qui vient de se conclure dans la station suisse, où malgré l'inévitable balai des jets, hélicoptères et limousines, tout a été fait cette année pour se verdir. Des poubelles de couleur pour le recyclage, des moquettes issues de filets de pêche recyclés, même des buffets sans touillettes en plastique. Et puis tout le monde s'est engagé à planter des arbres. Même Donald Trump a promis de rejoindre cette initiative des 1000 milliards d'arbres pour aider à la reforestation et compenser au maximum les émissions de CO2. Alors c'est de l'hypocrisie, bien sûr, diront ceux comme Greta Thunberg, présente à Davos, qui pense aussitôt à l'Amazonie. Hypocrisie, diront aussi les ONG, pour qui encourager les plantations, au lieu d'essayer de résoudre le problème à la source, c'est raisonner de travers, c'est comme multiplier les axes routiers pour mieux fluidifier la circulation, c'est une fuite en avant qui ne résout rien. C'est ce que font aussi d'ailleurs les grands pétroliers comme Shell et Total ou encore les compagnies aériennes comme Air France qui promettent de compenser intégralement leurs émissions de CO2 par le financement de projets verts. Et puis du côté des banques et des gestionnaires d'actifs, c'est pareil. On dit vouloir orienter un maximum de capitaux vers les projets de développement durable, mais un rapport de Greenpeace indique que depuis l'accord de Paris en 2015, 24 grandes banques venues à Davos ont investi 1400 milliards de dollars dans les carburants fossiles. Alors, tout cela n'est-ce qu'hypocrisie ou bien faut-il y voir, si on veut être optimiste, un vrai tournant dans la lutte pour le climat? Un premier pas. Début de réponse dans un instant par un petit détour à Davos avec notre envoyé spécial Delphine Simon et puis notre invité gouverneur de la Banque de France a lui aussi sûrement sa petite idée là-dessus.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Yves Decamp.
Coy Nguyen à la réalisation, Valentin Pérez pour la préparation, Serge Viguier à la technique, bienvenue dans le magazine Écho de la rédaction qui reçoit donc cette semaine le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, très favorable lui aussi au verdissement de la finance. Avec lui, nous parlerons également de la baisse annoncée du taux de livret A, les taux bas de l'immobilier, avantages et inconvénients. C'est ce dont nous parlera également le reportage de Caroline Pommès, comment le gouvernement cherche à mieux orienter l'épargne des Français vers l'activité économique. Avant cela donc, retour à Davos où la défense du climat a été inscrite à l'agenda des grandes entreprises. Ce sera une correspondance de Delphine Simon. Et puis on n'oublie pas, à ce même Davos, la nouvelle provocation de Donald Trump qui menace les Européens de représailles commerciales s'ils persistent, notamment la France, à vouloir taxer les GAFA, les géants du numérique, auxquels la France a donc décidé de laisser un répit jusqu'en décembre, le temps de mettre au point une taxe mondiale, et c'est ce dont vous allez débattre. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express, et Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Une taxe mondiale sur les GAFA, c'est une gageure? Béatrice Mathieu.
Non, c'est pas une gageure. Les travaux sont en cours. L'OCDE, parce que tout ça se fait sous la bannière de l'OCDE, travaille beaucoup. Et la semaine prochaine, il y a des réunions très importantes qui se passent avec un agenda tout au long de l'année 2020. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais c'est pas simplement une idée en l'air.
On peut être optimiste aussi, vous pensez aussi,
Christian?
Oui,
c'est des négociations qui ont lieu en ce moment même, au moment où on parle. Ouais. On aura le résultat la semaine prochaine. Et si ça aboutit, je pèse mes mots. Ce sera une révolution mondiale.
Bon, on va voir ça. Bonjour à vous, Sandrine Foulon.
Bonjour.
Dans Ma vie au boulot cette semaine, une question d'Anna, professeure des écoles, qui se demande si elle ne va pas démissionner.
Tiens donc. Oui, ou prendre la toute nouvelle rupture conventionnelle qui est testée dans la fonction publique.
Ma vie au boulot, donc, Sandrine, ce sera à 9h55.
22 janvier 2020, Pour être honnête avec vous, ça a été ardu de négocier avec l'Europe.
Donald Trump.
L'Union européenne a profité de notre pays pendant beaucoup d'années.
Président des États-Unis.
J'ai rencontré le nouveau chef de la Commission européenne, qui est formidable. On a eu une super discussion. Tu l'écoutes. Si on n'obtient pas quelque chose, je vais devoir réagir. Et ma réaction, ce sera des taxes très lourdes sur leurs voitures et d'autres choses qu'ils font entrer dans notre pays. Ils vont faire un deal, parce qu'ils sont obligés. Oui, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Mais on a eu un déficit énorme pendant de longues années, plus de 150 milliards de dollars avec l'Europe. Et franchement, Jean-Claude Juncker était un ami, mais négocier avec lui, c'était impossible. Je voulais m'occuper de la Chine d'abord, je voulais m'occuper du Mexique et du Canada d'abord. Mais maintenant, c'est fait. Et maintenant, on va s'occuper de l'Europe.
Je lui réponds ce que nous répondons depuis maintenant près de 2 ans.
Bruno Le Maire.
C'est qu'une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne.
Ministre de l'économie.
Ça n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, ça n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Ça fait baisser la croissance, ça détruit des emplois et ça détruit de l'activité économique. Nous, ce que nous souhaitons, c'est bâtir la fiscalité internationale du 21e siècle. C'est-à-dire être capable de taxer les géants du numérique. Nous sommes le premier État à l'avoir fait en France. Nous sommes le seul État en Europe à avoir une taxation du digital mise en place en 2019, perçue en 2019. Et nous continuerons en 2020 à percevoir une taxation sur les géants du numérique. Simplement, nous préférons que ce soit une taxation internationale plutôt qu'une taxation nationale.
Voilà Bruno Le Maire qui reste déterminé à taxer les GAFA, mais qui lâche du lest. C'était donc au début de semaine à Davos où le ton a légèrement changé malgré tout par rapport à ce que disait le même Bruno Le Maire début décembre sur France Inter.
Un sujet qui me tient très à cœur, qui est la taxation des géants du numérique. Mon message va être clair, nous n'abandonnerons jamais, jamais, jamais cette volonté de taxer de manière juste les géants du numérique pour avoir une fiscalité du 21e siècle qui soit juste et qui taxe les activités digitales.
Voilà, tel qui rit en décembre, rit plus jaune en janvier. C'est notre débat cette semaine avec donc Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique. Cette taxe GAFA que défend Bruno Le Maire depuis des mois a été gelée pour complaire aux Américains, éviter les représailles annoncées par Donald Trump, notamment sur les vins français. On va y revenir. D'abord, un état des lieux. C'est quoi précisément cette taxe GAFA? Ces taxes, puisqu'elle est en gestation aussi dans d'autres pays, hein, Christian, Royaume-Uni, Italie, Autriche.
Espagne, Autriche, exactement. Il y a d'autres pays européens qui veulent se lancer. Alors la taxe GAFA française, elle a été votée en juillet dernier par l'Assemblée nationale. Elle porte sur les activités numériques des entreprises qui ont au moins 25 millions de chiffre d'affaires en France et 750 millions de chiffre d'affaires dans le monde. Elle est de 3%. Elle porte sur une partie du chiffre d'affaires numérique. Trois points précis. Les revenus de la publicité ciblée que nous, on reçoit tous, de la part de ces GAFA. Sur les commissions qu'elle touche en tant que place de marché. Sur Amazon, vous achetez des produits de plein d'entreprises. Amazon, c'est une place de marché. Et sur l'argent qu'elle gagne en vendant les données qu'elles ont récupérées sur nous. Concrètement, Google, Facebook, par exemple, seraient touchés pour toutes leurs activités françaises. Mais Amazon ne fait pas seulement ces trois activités. Par exemple, elle offre du cloud, la possibilité de sauvegarder des choses sur Internet, ça ne serait pas taxé. Donc 20% seulement de l'activité d'Amazon en France serait concernée. Apple seulement 10% parce qu'ils vendent aussi des téléphones et ça, ce ne serait pas touché. D'après une étude de l'ONG Attac du printemps 2019, la taxe sur les GAFAM, si on rajoute Microsoft, aurait rapporté 162 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement rien du tout.
Broutille, oui. Donc on attend maintenant, on espère qu'une taxe mondiale va prendre la place, qui sera peut-être pas plus forte, je sais pas, plus importante, Béatrice Mathieu. En tout cas, vous y croyez. Vous nous avez dit tout à l'heure que ça pourrait se faire.
En tout cas, les négociations sont en cours sur un principe complètement assez différent de ce qui était fait en France. Et c'est vrai qu'une des difficultés de l'OCDE, c'est qu'ils ont présenté, en fait, il y a 138 pays qui sont concernés. Donc c'est déjà, faut dire, c'est extrêmement important. Alors l'OCDE a présenté un premier jet de ce qu'ils imaginaient à l'automne. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement complexe, très différent de ce que Christian vient de présenter, puisque, alors, pour faire simple et pour pas donner tout de suite un mal de tête à tous les auditeurs, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est-à-dire calculer le profit consolidé mondial de toutes ces multinationales. Quand on aura calculé ça, eh bien, il y aura une norme qui aura été établie entre ces 138 pays pour savoir ce qui est une sorte de rentabilité maximale normal. Et les profits, ce que l'OCDE appelle les profits résiduels, ce sont ces profits résiduels qui seront séparés, distribués entre les pays et qui lesquels taxeront en fait ces profits résiduels. Donc il y a plein d'inconnus là-dedans. Première inconnue, comment on calcule au niveau mondial le profit consolidé mondial? Comment on répartit la clé de la répartition entre ces pays-là? Et après, le taux d'imposition. Donc on voit que les négociations qui redémarrent aujourd'hui, c'est extrêmement technique.
Mais est-ce qu'il y a une moindre chance que les gens se mettent d'accord, que les pays se mettent d'accord? Déjà, les Européens ne sont pas d'accord entre eux.
Non, les Européens n'étaient pas d'accord pour faire une taxe au niveau européen. Et ça, ça a été le gros souci de la précédente commission. Et donc, Pierre Moscovici s'est cassé les dents là-dessus. Parce qu'on voyait bien que l'Irlande ne voulait pas. L'Allemagne avait peur des représailles commerciales. Etc. Là, on est dans un cadre différent. C'est vrai que il y a plusieurs options. On voit bien que il faut voir que les États-Unis quand même ont joué un rôle important dans ce qui a été fait à l'OCDE, et c'est ce qui a été présenté par l'OCDE à l'octobre. C'est un peu le cadre américain. Donc on peut pas dire aujourd'hui que les Américains ne veulent pas d'une taxation internationale des géants du numérique, mais pas seulement des géants du numérique, parce que c'est pas une taxe. C'est bien là encore assez différent de ce qui a été présenté en France. Ce n'est pas une taxe qui vise simplement les GAFAB. C'est une taxe qui vise toutes les entreprises qui ont aussi une activité digitale et numérique. Et c'est pas simplement les GAFAM. C'est là où Trump était très mécontent de la taxe française, c'est qu'il disait « Vous ciblez essentiellement les entreprises américaines ». On peut pas lui donner complètement tort, parce que quand on regarde les 26 entreprises qui étaient visées dans la taxe GAFA française, il y avait une entreprise française qui est Criteo, toutes les autres sont des entreprises américaines.
Donc c'est quand même essentiellement les géants américains, qui vont trinquer, disons-le.
Si, comme l'a dit Béatrice, ce qui est en train d'être négocié au niveau OCDE fonctionne, ça ira bien au-delà des géants du numérique. Mmh. Et c'est ça qui est dingue dans ce qu'elle a dit, c'est que Trump, au début 2018, tout était bloqué, et début 2019, tout d'un coup, tout se débloque. Pourquoi? Parce que Trump a permis d'avancer dans leur réforme fiscale de 2018, les Américains. Bon, Trump a lâché beaucoup et a baissé les impôts sur les riches, mais il y avait une deuxième partie dont on parle moins dans sa réforme fiscale, ce qui était vraiment mieux taxer les multinationales et éviter qu'elles utilisent trop les paradis fiscaux. Et là, ce que fait l'OCDE, je crois que ça va même un peu plus loin que ce qu'a dit Béatrice, parce que ça pose des principes. Sur le principe, on va voir la pratique, mais sur le principe, il y a trois principes révolutionnaires. Le premier, c'est on peut taxer une entreprise qui n'est pas présente sur le territoire. Et ça jusqu'à présent, c'est pas possible. Le fisc français a dit à Google, vous avez truandé, vous nous devez 1 milliard. Et ils ont été en justice, et la justice française a dit, peut-être, mais en tout cas, comme Google n'a pas de présence physique importante en France, vous pouvez pas les taxer. Maintenant, on pourra, si les négociations aboutissent, taxer l'entreprise qui n'est pas présente.
Les Américains font ça depuis longtemps, ils taxent leurs entreprises qui font des affaires à l'étranger.
Oui, sauf que si vous laissez les profits à l'étranger, si votre profit est différé, c'est jamais taxé. Donc évidemment, les profits des grandes multinationales américaines sont au Barbade, au Caïman, etc. et donc sont jamais taxés. Là, on va pouvoir taxer. Deuxième principe fort, c'est ce qu'a dit Béatrice, si Google ou n'importe qui ruse pour envoyer, transférer artificiellement ses profits de France en Irlande, par exemple. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de calculer un profit mondial consolidé. En tout cas, va aller en Irlande, on va dire qu'est-ce que c'est le profit normal, entre guillemets, en Irlande. Donc, ce qui est pas du profit normal, c'est du profit résiduel, comme l'a dit Béatrice, mais on va prendre seulement une partie de ce profit résiduel. 20%, c'est les chiffres qu'on entend aujourd'hui. Donc, vous avez déjà pas tous les profits en Irlande, et ce qui est sur le profit résiduel, une partie. Donc une partie d'une partie, ça va pas faire grand-chose. Les experts du Conseil d'analyse économique ont dit, on a fait le calcul, honnêtement, ça va pas ramener.
L'Irlande qui avait déjà refusé, rappelons-le, de faire payer Google.
Oui, mais justement, ça va aller. On dépasse les Irlandais, les Luxembourgeois et les Hollandais parce qu'on est au niveau mondial. Le troisième principe qui est extrêmement fort, c'est celui d'un seuil minimal d'imposition. Trump l'a mis à 1325%. Le taux d'IS, le taux d'impôt sur les sociétés en Irlande, c'est 12,5. Donc tout le monde dit le taux, ce seuil minimal va être entre 12,5 et 13. Et si vous êtes un GAFA et que vous allez en Irlande, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, et que grâce à des accords fiscaux secrets que vous signez avec les fiscs de ces pays, vous payez 1%, votre taux d'imposition c'est 1%. Eh bien, pour une entreprise qui est en France, le fisc français va pouvoir dire, vous nous devez la différence entre 1% et ce 12-13%. C'est absolument incroyable.
C'est formidable alors, le mieux dans le meilleur des mondes.
Je pense sur les principes en tout cas.
Non, mais ce qui est assez contre-intuitif pour nous, c'est-à-dire que les négociations à l'OCDE, qui durent depuis des années sur ces questions, ont nettement avancées, ont pris une vitesse supérieure dès que Trump est arrivé.
Exactement.
Et parce qu'elles avaient été bloquées pendant des années sous l'administration.
Ce qui est
contre-intuitif, totalement paradoxal pour nous. Hein. Nous, on est sur le méchant Trump qui fait que des mauvaises choses, etc. En réalité, sur cette question de la taxation du numérique, l'arrivée de Trump a débloqué un certain nombre de choses parce qu'il a fait une réforme fiscale. Effectivement, il a baissé énormément le taux de l'IS, mais en baissant le taux de l'IS, il a financé sa réforme fiscale en mettant un taux d'imposition minimum et en faisant en sorte que les profits qui étaient logés dans les paradis fiscaux, les profits des entreprises américaines qui étaient logés dans les paradis fiscaux, reviennent aux États-Unis et il les taxait. Et donc, en faisant ça, eh bien, il est revenu à la table des négociations et là, les négociations ont beaucoup avancé
sous
l'administration Trump. Sauf qu'il est
maintenant en campagne électorale, ce qui peut changer beaucoup de choses.
Sauf qu'il est en l'agenda politique, effectivement, là, est compliqué parce que, bon, Trump, avec une sorte de réel politique et de cynisme politique, eh ben, il voit quand même, il a vu défiler dans son bureau une partie des géants de la tech, mais pas que. Hein, les grands laboratoires américains ont dit, mais attendez, nous, là, dans ce que vous avez fait, mais on est touchés. Parce qu'encore une fois, ce que les travaux de l'OCDE ne concernent pas seulement les géants du numérique, mais toutes les multinationales. Et là, certaines grandes entreprises américaines ont dit, attendez, mais nous, on est pourvoyeurs de fonds, votre campagne, on la soutient, etc. Ce qui explique finalement le raidissement en fin d'année des États-Unis. Il y a eu une lettre qui a été envoyée par Steven Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, le 3 décembre à l'OCDE, disant, bon alors nous on soutient tout à fait vos travaux, etc. Mais on veut que cette taxe elle soit optionnelle. Ce qui était évidemment totalement délirant, optionnelle pour les entreprises. Bah, oui. On voit effectivement les entreprises américaines, bah, nous on va pas la payer, etc.
Mais ce qui peut bloquer en partie les États-Unis, c'est moins la campagne électorale que la France. Parce qu'il y a un accord au niveau mondial qui va bien au-dessus de la France, bien au-dessus des Européens, et les Français disent bah, « Oui, oui, nous aussi, on est pour un accord international. Et en attendant, on va vous taxer. » Et c'est pas du tout dans l'esprit multilatéral.
Non, parce que la taxe a été gelée. Donc.
Alors, c'est pas
donc
sous la pression américaine.
Le maire a eu raison.
Mais le maire, déjà, je pense qu'il aurait pas dû faire cette taxe qui, pour 150 millions, honnêtement, nous met le bazar dans les négociations internationales. Il aurait mieux fait de s'abstenir. Et là, il a bien fait de dire « On va
pas... » C'est très étonnant de vous entendre dire ça.
Oui, parce que je pense que la négociation multilatérale va aller bien plus loin que cette taxe française et qu'il faut pas multiplier les taxes non plus dans les pays européens avec des assiettes différentes, avec des taux différents. Ça va être un bazar fiscal. C'est déjà le bazar fiscal. Si on peut avoir une règle commune mondiale, ce sera mieux.
Oui, parce que le risque, en fait, on voit bien toutes les initiatives qui fleurissent en Grande-Bretagne, en Italie, en Autriche, en Hongrie et dans d'autres pays. Il y a eu une étude là, de KPMG qui était faite récemment qui montre qu'il y a une trentaine de taxes GAFA qui sont en gestation dans le monde. Le risque, c'est une sorte de balkanisation de ces taxes.
Exactement.
C'est-à-dire chaque pays, de façon unilatérale, décide le format de sa taxe et ce qui entraîne, en fait, pour les entreprises, une sorte d'insécurité juridique avec des risques de double imposition, voire triple imposition, ce qui entraîne des contentieux juridiques à n'en plus finir. Et en fait, paradoxalement, c'est la pire des solutions, cette sorte de multiplication des taxes GAFA
entièrement
partout.
D'accord.
Eh bien, vous êtes d'accord, c'est formidable. C'est même un peu dommage pour le débat. Mais... En tout cas, merci Béatrice Mathieu, Christian Chavagneux. Restez avec nous, je ferai peut-être appel à vous encore dans un instant. On va d'abord aller à Davos.
Our house is still on fire. Your inaction is fueling the flames by the hour.
Voilà, retour à Davos avec cette fois non plus les menaces de guerre commerciale, mais l'absence d'une vraie déclaration de guerre contre le réchauffement climatique du point de vue de Greta Thunberg, en tout cas, qu'on vient d'entendre. Hein. On a encore fait de beaux discours dans la station suisse, des discours repeints en vert, par simple souci de marketing, disent certains, car il y a loin, souvent, des discours aux actes.
Bonjour.
Vous étiez toute cette semaine à Davos où le Gotha du monde économique s'est donc montré sensible au verdissement des opinions publiques.
Alors c'est vrai qu'il y a une prise de conscience. Ici, tout le monde parle de climat, les PDG, les investisseurs, les dirigeants politiques. Au-delà des annonces, des levées de fonds, un fait notable cette semaine, BlackRock, le principal gestionnaire d'actifs au monde qui siège dans les conseils d'administration de très grandes entreprises, vient d'annoncer qu'il allait peser à l'avenir pour réorienter les investissements de ces grands groupes vers l'environnement. Alors il faut relativiser, difficile de sortir du charbon du jour au lendemain, de tout stopper comme le demande Greta Thunberg cette semaine. Si l'Europe fait des efforts, l'Inde ou la Chine, ces pays émergents sont des boulimiques en énergie. Ils ne savent pas faire sans le charbon, sauf à provoquer la révolte de leur population.
Alors pour Greta Thunberg, les revendications sur le climat ont été largement ignorées. Tout reste à faire finalement.
Oui, c'est ce que disent aussi les militants du climat qui ont marché jusqu'à Davos. C'est une farce, ces débats sur le climat entre les grands patrons, disent-ils, 119 milliardaires indiens, russes ou américains, la plupart arrivés en jet privé, selon l'agence Bloomberg. Au-delà des innovations indispensables à trouver pour sortir du plastique, des énergies fossiles, ce qui est encore plus compliqué pour les patrons, c'est qu'il faut changer de modèle économique. Et là, ils sont dépassés, ils n'ont pas la solution. Ça explique pourquoi le climat est leur 12e préoccupation dans l'étude du cabinet PwC qui a été dévoilée en début de semaine. La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté devant un parterre d'investisseurs le Green Deal européen, ces 1 000 milliards d'euros qui seront mobilisés sur 10 ans pour financer la transition énergétique. Mais toutes ces promesses vont-elles se transformer en actes? Aujourd'hui, la croissance ralentit, elle est incertaine. Au plus haut niveau, on peine à trouver les clés, reconnaît une ministre française. Mais pour le Fonds monétaire international, il n'y a plus le choix. Les pays doivent se réveiller et tout faire pour être à la hauteur.
Delphine Simon, envoyée spéciale de France Inter à Davos. Alors, verte ou pas, l'économie profite ces dernières années, en tout cas, de taux de crédit historiquement bas. Il est devenu très intéressant d'emprunter et d'investir. On en parle dans un instant avec notre invité François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. D'abord, pour les entreprises comme pour les particuliers, en attendant, il n'y a rien à gagner aujourd'hui à mettre l'argent de côté. Serait-il devenu plus intéressant d'être cigale que fourmi? C'est le reportage dont n'arrête pas l'écho.
Bon, vous m'avez sollicité pour faire le point sur votre contrat d'assurance vie. Alors, on va regarder ensemble l'état de situation et le rendement qu'on a fait depuis un an.
Donc là, on a sous les yeux le papier état de compte avec l'épargne qu'a placée madame.
Alors là, effectivement, dans son assurance vie, on a deux fonds différents. Alors, ce sont deux fonds euros différents. Et que malheureusement, vu les taux qui sont distribués, donc moins de 1% sur les deux fonds, il y a une réflexion à avoir, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur ce fonds? Ou est-ce qu'on essaye de se dire, sans forcément prendre un risque maximum, de prendre une partie de cette épargne pour le dynamiser sur des fonds diversifiés qui nous permettront d'augmenter un peu le rendement global de l'enveloppe?
Si j'ai pas de risque de perdre de l'argent, je veux bien. Mais s'il y a un risque, moi, je suis pas prête à perdre de l'argent.
D'accord. C'est pour ça qu'il y a différentes possibilités d'investissement. Et après, ça va dépendre aussi de votre profil de risque. Vous, votre profil de risque initialement était prudent. C'est pour cela d'ailleurs qu'on s'était positionné à 100% sur du fonds euro.
Prudent parce que en fait, quasiment toute mon épargne est ici. Donc je ne peux pas me permettre de perdre cette liquidité-là au cas de besoin, en cas de pépin. On ne sait jamais ce qui peut arriver, si je perds mon travail, si un enfant a besoin de moi. Donc voilà pourquoi.
Donc là, ce que vous avez, madame, ça rapporte pas grand-chose, au final,
de
par
moins,
an.
Oui, d'année en année, ça diminue, c'est de moins en moins.
Et donc là, est-ce que vous êtes prête à les miser en bourse?
Alors, je suis pas prête là tout de suite à les miser en bourse. J'attends d'avoir justement un retour de mon conseiller. Et de là, on ira vérifier la prise de risque.
Ça fait longtemps que vous épargnez?
Avec ce cabinet, ça fait 7 ans. Mais oui, ça fait très longtemps que j'ai toujours... Alors avant, je le mettais sur des livrets type bancaire, sauf que... Par rapport à la protection de ma famille, notamment mes enfants, j'ai choisi d'aller dans l'enveloppe fiscale assurance vie pour qui, en cas de décès, ben justement, ils récupéreront les capitaux sans frais de succession, et ce qui est là, pour le coup, un super gain, parce que c'est 20-30% de gagné sur le capital pour chacun. Donc il n'y a même pas de débat.
Eh oui, il n'y a pas de débat. L'assurance vie, c'est le produit préféré des Français, même s'il n'y gagne pas grand-chose. On a compris que ce que nous aimons par-dessus tout, nous Français, c'est la sécurité d'un placement. Les encours de l'épargne sécurisée en fonds euros, selon les chiffres de la Banque de France, ont d'ailleurs progressé de 530 milliards d'euros en 4 ans. Confirmation, explication, au cercle de l'épargne, la référence en la matière, où s'est rendue Caroline Pommès.
Philippe Crevel, directeur du cercle de l'épargne et économiste.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en ce moment? Quelle est la situation des épargnants en France?
Aujourd'hui, les épargnants français laissent beaucoup d'argent dormir sur leur compte courant. Comme les taux d'intérêt sont faibles, ils se disent « à quoi bon ?» Et il y a 400 milliards d'euros sur les comptes courants des Français. Il y en avait, il y a 10 ans, 200 milliards d'euros. Ça a été multiplié par deux. L'autre type de placement qui progresse, assez de manière paradoxale, ce sont des produits à très faible rendement. C'est le livret A qui a fait une très bonne collecte en 2019. Et également le fonds euro de l'assurance vie qui a récolté plus de 24 milliards d'euros en 2019. Ce sont des produits qui sont aujourd'hui faiblement rémunérés, mais qui assurent la sécurité et la liquidité. Ça veut dire que je mets 100, je suis sûr de retrouver mes 100. Et si je veux ressortir l'argent le lendemain après les avoir déposés, je peux le retrouver. Et ça, le Français, il adore.
Même s'ils y perdent.
Même si les Français perdent en termes réels de l'argent avec une inflation qui se trouve autour de 1,2%. Il y a plusieurs produits d'épargne où on perd de l'argent en termes réels. Ça veut dire une fois l'inflation prise en compte, c'est le cas du livret A, rendement de 0,75%, inflation autour de 1,2%, ça veut dire qu'on perd 0,4%. C'est le cas encore plus des livrets bancaires qui sont fiscalisés à 30%, qui rapportent 0,2%. Donc là, c'est vraiment, on est en négatif de chez négatif. Le fonds euro de l'assurance vie, hein, là, c'est légèrement négatif, c'est mieux que les précédents, mais également en termes réels, comme on dit, on perd de l'argent. Et pour trouver du rendement, il faut évidemment accepter un petit peu de délai. Il faut accepter des moments un peu difficiles. 2018, la bourse a baissé de plus de 11%. En 2019, elle a monté de 26%. Fin 2018, on pouvait pleurer. En la fin de l'année 2019, on peut sourire. Mais il faut accepter ces phases de bas et de haut. Et les Français, c'est vrai, aujourd'hui, préfèrent la sécurité, une stabilité au prix d'un rendement, d'un intérêt plus faible.
Mais la sécurité ne rapporte plus rien aujourd'hui, ni pour l'épargnant, ni pour les banques et les assureurs. Le livret A, l'assurance vie en fonds euros sont devenus des boulets pour ceux qui les vendent. Ils sont plusieurs à avoir pris des mesures pour éviter que de nouveaux clients achètent ces produits sécurisés. Generali France est l'une des premières compagnies d'assurance à avoir annoncé la couleur. Les clients qui vont vers des produits sécurisés seront pénalisés. Il faut désormais se tourner vers des produits plus volatiles. Pas le choix pour Hugo Brie, membre du comité exécutif chez Generali France, chargé du marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Bonjour.
Il y a à l'intérieur des fonds euros une part significative en produits dits obligataires. Et dans ces produits obligataires, vous en avez deux types. Vous avez des produits obligataires qui sont émis par des sociétés privées et puis il y a des produits obligataires qui sont émis par les États. Et donc en l'occurrence, l'obligation assimilable au Trésor. Comme c'est une part significative de ces fonds, à partir du moment où ces obligations assimilables au Trésor deviennent négatives, on voit bien que c'est compliqué d'avoir toujours le triptyque magique qui consiste à avoir performance, liquidité et garantie à tout moment. Et donc les déclarations que l'on a faites sont de deux natures. La première, c'était de dire oui, en termes de flux, il faut restreindre la part en euros. Et puis la deuxième partie, c'est de dire il faut absolument mettre des réserves et de la richesse de côté pour pouvoir assumer les engagements que l'on a par rapport aux clients existants. Et c'est là où on avait dit nous allons baisser significativement la participation aux bénéfices, en fait les taux que l'on va servir aux clients.
C'est-à-dire, vous êtes passé de combien à combien ?
Je citerai un fonds, le fonds général qui s'appelle AGGV. Et ce fonds-là, on est passé en gros de 1,65 à 1%. Et
donc, ce qui est quand même significatif.
Voilà, ce qui est significatif, c'est la résultante de l'environnement de taux que l'on connaît et c'est aussi la résultante des mesures que l'on a souhaité prendre de façon à mettre plus de réserves de côté que nous devons bien entendu à nos clients et que nous allons distiller sur les 8 années à venir.
Bon, mais merci beaucoup.
Très bien. Merci.
Bonne journée.
Infiniment.
Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Les compagnies d'assurance, elles aussi, obligées donc de faire des économies avec ces taux bas qui leur coûtent cher. Mais pour François Carlier, délégué général de CLCV, Association de consommateurs, répercuter les pertes sur le client n'est pas une solution. Je reviens de chez Generali, une des compagnies d'assurance qui a décidé de mettre plus de contraintes sur les produits sécurisés qu'adorent les Français, les produits en fonds euros, qui ne rapportent plus grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie ?
En fait, ça nous paraît critiquable. Alors, la raison avancée, c'est que les taux sont bas en ce moment du fait de la politique de la Banque centrale. Et ça, c'est vrai, c'est indéniable. Mais il faut aussi rappeler que pendant de longues années, les assureurs ont fait des réserves importantes. C'est-à-dire que sur l'argent qu'on leur donnait et qu'ils plaçaient, sur 100 euros à peu près qu'ils gagnaient sur les placements, on a calculé qu'ils ont reversé que 73, en moyenne, hein, 73% de reversement au cours des 8 dernières années. Et ils nous ont souvent dit tandis qu'en fait, ils mettaient en réserve pour, quand les temps seront durs, continuer de donner des rendements corrects à leurs épargnants, à leurs clients. J'ai envie de dire que les temps sont durs, c'est maintenant. C'est vrai que maintenant qu'il y a un environnement un peu particulier, c'est là qu'ils devraient quand même prendre sur leurs réserves pour continuer de servir, alors pas 3% bien sûr, mais 1,5% ou 2%. Et ça, ils ne le font pas. Et pour le coup, c'est problématique.
Après, vous pouvez pas nier que ça fait perdre de l'argent à certains épargnants, ces placements dans ces produits qui sont à taux très très bas aujourd'hui, à taux réel négatif.
Bon, ça c'est un fait, c'est pas un bon moment en ce moment pour l'épargne sécurisée. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller sur l'épargne risquée? Ça dépend des épargnants. En fait, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? C'est toujours difficile à dire. Je pense que ceux qui peuvent aller sur les placements risqués, il faut répondre à deux conditions. La première, faut avoir déjà une somme d'argent substantielle. On est quand même dans une génération où l'épargne s'est beaucoup faite par l'achat de la résidence principale. Donc après, il reste peu d'épargne financière. Et très franchement, quand on n'a pas énormément d'argent, ça vaut pas vraiment le coup d'aller sur les placements vraiment risqués parce qu'il y a les frais de gestion. La deuxième caractéristique, c'est qu'il faut que ce soit des personnes, je dirais, qui s'intéressent un tant soit peu, qui suivent ce type de placement. Parce que sinon, vous faites des mauvais choix. Donc voilà, donc il faut avoir de l'argent, faut s'y intéresser. Là, ça vaut le coup d'aller sur les placements risqués. Sinon, c'est pas forcément intéressant.
Avec sa politique des taux bas, la Banque Centrale Européenne pénalise l'épargne, mais favorise l'emprunt et pousse les banques à prêter pour soutenir l'économie et l'investissement. Mais est-ce qu'un jour on en verra les bénéfices? Pas sûr pour Laurent Cialom, professeur en sciences économiques à Paris-Nanterre.
On va aller dans mon bureau. On pourrait se dire, finalement c'est très positif, puisqu'on a des taux d'intérêt très bas. On est dans un contexte où on doit changer radicalement de modèle et on doit financer la transition écologique. Besoin massif d'investissement, on se dit, banco, c'est super. Mais qui est en même temps à la fois un très grand danger. Parce que du coup, ça veut dire que pour retrouver du rendement financier, il faut prendre beaucoup plus de risques. Donc ça favorise notamment les bulles immobilières, les bulles spéculatives, c'est-à-dire s'endetter pour acheter des actifs qui eux-mêmes sont spéculatifs.
Par exemple,
quand vous achetez de l'or, quand vous achetez un bien immobilier, quand vous achetez des actions en vous endettant, dans le contexte actuel, ce que vous attendez en fait, c'est que le prix de l'actif augmente pour que quand vous le revendiez, vous fassiez du rendement financier, mais pas du rendement par l'intérêt ou par les dividendes, mais du rendement par la plus-value.
Comment mieux orienter l'épargne des Français? C'était un reportage de Caroline Pommès.
Tous les samedis à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Yves Decaen.
Et c'est une bonne idée ça, Christian, de mieux orienter l'épargne des Français vers l'activité?
Il faut déjà avoir de l'épargne, comme on le disait dans le reportage. 60% des gens qui ont un livret A ont moins de 1 500 €, 40% ont moins de 150 euros. Alors je pense que ces gens-là vont pas aller en bourse pour placer ça. On nous dit les Français ont peur, ils sont avec le livret A. D'après les données de la Banque de France, un tiers de l'épargne financière des Français va à ce qu'on appelle un produit de fonds propres, c'est-à-dire financer le capital des entreprises. Donc c'est quand même pas si mal que ça.
Béatrice.
Oui, effectivement, on a besoin de financer des start-up, des entreprises, etc. Et il y a besoin de réorienter un petit peu le financement. Il faut voir qu'on a beaucoup parlé là d'une sorte de forme d'euthanasie des rentiers. Il faut voir vous avez des taux réels négatifs, alors il faut voir aussi la conséquence aussi des taux bas. Ça a été un petit peu évoqué, c'est l'accroissement de la dette des ménages. Quand on parle de dette en France, on est toujours obnubilé par la dette publique, l'État et des collectivités locales. On ne pense pas à une autre dette qui est en train d'enfler de façon assez importante, c'est la dette des ménages. On est quasiment à 96% du PIB. C'est pas loin du niveau de la dette publique. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près.
Eh bien, on va en parler dans un instant avec notre invité. Merci Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Donc le Nouvel Express qui publiera dans son prochain numéro un dossier sur la taxe GAFA dont on parlait tout à l'heure. Et puis Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique, dont le numéro de février se consacre aux jeunes. Les jeunes qui sont des sacrifiés, non pas de l'épargne, mais...
Point d'interrogation.
Merci à vous et bonjour à notre invité, gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo.
Bonjour Yves Decaen.
Alors les taux bas pénalisent l'épargne, on vient de l'entendre, mais facilitent les emprunts et donc l'activité économique. C'est un bon résumé de la situation?
Les taux bas, c'est pas une fin en soi. Comme vous l'avez dit, ils sont destinés à soutenir une activité économique qui est naturellement trop faible. On est aujourd'hui autour de 1% de croissance en Europe. Et quand on regarde la contribution des taux bas à l'économie et à l'emploi, là, toutes les estimations sont d'accord pour dire que ça a été très significatif. C'est-à-dire à peu près 0,5 points de croissance par an. Ça peut paraître un peu abstrait, mais ça veut dire, si je regarde ces dernières années, plusieurs centaines de milliers d'emplois supplémentaires en France et plusieurs millions d'emplois supplémentaires à l'échelle de la zone euro. Alors ça, ça a changé très concrètement et positivement la vie de millions de citoyens.
En revanche, la dette des ménages... Alors, flambe, comme le disait Béatrice Mathieu.
Ensuite, il faut qu'on regarde les effets sur les épargnants et les emprunteurs. Au passage, d'ailleurs, la plupart des ménages, et chacun d'entre nous, est à la fois épargnant et emprunteur.
Hein, donc emprunter, c'est un peu épargné, finalement.
Il faut regarder les deux effets. En gros, c'est favorable pour les emprunteurs, ça peut être moins favorable pour les épargnants. Mais je voudrais relever quelque chose à propos de ce que Béatrice Mathieu disait sur la dette des ménages. C'est vrai qu'elle augmente en France. Mais les taux sont bas dans l'ensemble de la zone euro, et ailleurs dans la zone euro, la dette des ménages, elle a tendance à diminuer par rapport à la richesse économique. Donc vous voyez, ça n'est pas seulement l'effet des taux bas, il y a aussi des explications particulières à la France. C'est favorable pour l'investissement des entreprises, c'est favorable pour les ménages qui veulent acheter leur résidence. Pour autant, il faut qu'on mette des garde-fous. Ça, c'est des mesures que nous avons prises sur le crédit immobilier.
Oui, surtout, c'est ce risque de surchauffe que vous avez pointé là récemment, en appelant les banques à la vigilance.
Oui, alors, qu'est-ce qui se passe sur le crédit immobilier? Il progresse entre 6 et 7% par an. Ça, c'est plutôt favorable à l'activité économique. Les taux sont très bas. Si vous prenez un couple qui emprunte 200 000 euros... par rapport au taux qu'il y avait il y a 5 ans, il va économiser 30 000 euros sur la durée de vie du prêt. Vous voyez, c'est très significatif. Mais nous avons fait, au fond, le rappel de règles de bon sens et pris des mesures de prévention vis-à-vis des banques sur deux dimensions. C'est la durée des crédits, il ne faut pas aller au-delà de 25 ans. Oui. Et puis c'est la charge de remboursement, il ne faut pas que la mensualité dépasse un tiers du revenu.
Ça a toujours été la règle.
C'est des règles de bon sens, effectivement.
Mais vous voulez dire que les banques ont tendance à se lâcher?
Écoutez, en tout cas dans le dialogue entre les banques et les emprunteurs, on a observé une dérivée ces dernières années, donc il fallait mettre un coup d'arrêt à la dérivée. Et j'ai eu l'occasion de dire, avec Bruno Le Maire, qui préside le Haut Conseil de Stabilité Financière, que maintenant nous allons surveiller que, au-delà d'une flexibilité bien calibrée, les banques appliquent ces règles de bon sens. On est tout à fait sérieux là-dessus. On va maintenir le dynamisme économique et le dynamisme du secteur de l'immobilier, mais on va faire attention à ce que les ménages ne se trouvent pas en risque demain.
Alors vous avez dit aussi qu'il n'y avait pas de raison de déroger à la formule de calcul du taux du livret A, qui sera donc actualisé le 1er février. Sur votre proposition, ce sera donc 0,5, une baisse de 0,25. Ça va concerner 55 millions de personnes et notamment beaucoup de ménages modestes.
Alors,
qui vont y perdre.
Sur le livret A, son taux va effectivement descendre à 0,5. D'abord, je souligne tout de suite qu'il ne descendra pas plus bas. C'est-à-dire qu'il y a un plancher à 0,5 qui assure quand même une rémunération positive de l'épargne. Ça n'existe pas chez nos voisins européens. Vous pouvez regarder, dans les 18 autres pays de la zone euro, il n'y a pas de rémunération minimale.
Enfin, par rapport à l'inflation, on perd de l'argent.
Il n'y a pas de rémunération minimale de l'épargne liquide. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que votre question est évidemment tout à fait légitime. Il y a une première raison, c'est que il faut que cette baisse des taux, elle puisse aussi profiter au logement social. Vous savez que le livret A sert à financer le logement social. Si le financement du logement social est trop cher, on construit moins. 0,25% de baisse du livret A, ça fait quand même plus de 15 000 logements sociaux supplémentaires ou plus de 50 000 qu'on peut rénover. Vous voyez que ça, c'est assez significatif. Après, par rapport à l'épargne populaire, question très importante que vous posez. Il y a un produit qui n'est pas assez connu et pas assez répandu, c'est le livret d'épargne populaire. Parce que lui, son rendement reste protégé de l'inflation. Son rendement, il va être à 1%. Et là aussi, il ne descendra pas en dessous.
Et il concerne les ménages vraiment les plus modestes.
Il concerne les ménages en fonction de leur niveau de revenu, mais il concerne potentiellement 15 millions de Français, Yves Decaen. Or, malheureusement, il y en a moins de la moitié aujourd'hui qui ont un livret d'épargne populaire, et souvent pour des montants trop bas. Christian Chavagneux rappelait tout à l'heure que les montants sur le livret A, ils sont souvent très faibles. Si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, et pour qui n'ont pas encore des livrets d'épargne populaire, c'est d'aller ouvrir ce produit, et j'espère aussi que les banques vont se mobiliser pour le promouvoir.
Alors, à travers les taux d'intérêt, les banques, vous l'avez dit tout à l'heure, les banques pèsent sur le niveau de croissance, qui est plutôt meilleur dans l'Hexagone cette année que chez nos voisins. C'est une belle performance de la France ou bien ce sont nos voisins qui font moins bien?
C'est un peu les deux, comme souvent en économie. Mais je crois qu'effectivement, l'économie française résiste plutôt bien. Pour vous citer les chiffres 2019, l'économie française aura fait probablement 1,3% de croissance. C'est notre prévision à nous, Banque de France. C'est plus de deux fois plus que l'Allemagne, qui aura fait 0,6%. Vous voyez, ça fait assez longtemps qu'on n'avait pas eu cette situation.
Donc c'est pas seulement grâce aux taux bas.
Les taux bas y ont contribué des deux côtés. Je pense que certains pays européens auraient été très proches de la récession s'il n'y avait pas eu le soutien par les taux bas. Hein. Mais il y a en particulier, grâce à cette croissance française, quelque chose de très positif qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est la création d'emplois. Hein. Quand vous regardez sur les 4 dernières années, depuis 2016 jusqu'à 2019, la France aura créé 1 million d'emplois supplémentaires. Ça fait très longtemps que nous n'avions pas eu une performance pareille. Je crois qu'il y a à la fois l'effet de la croissance, dont les taux bas, et puis le premier effet de certaines réformes qui ont été prises depuis 2016. J'enjambe un peu l'échéance électorale, parce que la Banque centrale est indépendante, et qu'il faut regarder le cycle économique. Mais la baisse du coût du travail à travers le CICE, l'assouplissement de certaines règles sur le marché de l'emploi, incontestablement commence à produire des effets pour faire baisser le chômage.
Alors le pouvoir d'achat également dans les chiffres, en tout cas, se tient assez bien, en hausse de 2% l'année dernière, je crois, en moyenne. Comment expliquer le ressenti contraire de la population? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la répartition des richesses, par exemple?
Alors, vous avez raison, les statistiques de pouvoir d'achat, elles sont à la fois positives et très délicates. Hein. Elles sont positives parce que sur l'année dernière, en moyenne, la croissance du pouvoir d'achat serait effectivement de 2% par habitant. Quand je regarde sur les mêmes 4 ans depuis 2016, on serait à peu près à 5%. Donc ça, c'est positif. Et en même temps, la perception n'est pas celle-là. D'abord, pour une raison très simple, c'est que parmi ceux qui nous écoutent, ceux qui ont moins que la moyenne, évidemment, disent « mais je me retrouve pas dans ces chiffres ». Ceux qui ont plus que la moyenne, vous allez voir, ils vont pas appeler le standard de France Inter, hein, ou ils vont pas m'écrire. Donc, il y a
Eh oui, mais qui a plus et qui a moins?
Qui a plus et qui a moins? Quand vous regardez, ça, c'est la question des inégalités, à laquelle je suis personnellement extrêmement sensible. Heureusement, il faut rester extrêmement mobilisé dans la lutte contre les inégalités, mais heureusement la France et l'Europe la résistent mieux que le reste du monde. On parlait tout à l'heure des États-Unis de M. Trump, c'est une économie incroyablement inégalitaire. Hein. Le modèle européen, moi j'y crois, et je crois qu'il a mieux protégé contre les inégalités. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin là-dessus, et en particulier qu'on donne à chacun le maximum de chances dans la nouvelle donne économique, technologique qui s'annonce. Je crois par exemple qu'il n'y a pas de bataille plus prioritaire pour la France que celle de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'éducation. Parmi ceux dont le revenu a augmenté, il y a ceux qui ont retrouvé un emploi, ceux dont on parlait tout à l'heure. Ceux-là, c'est des gagnants du pouvoir d'achat, mais il faut donner au maximum. Nous sommes encore un pays qui a 8% de taux de chômage, qui a des centaines de milliers de jeunes au chômage, et en face de ça, vous avez des entreprises qui ont des difficultés à recruter. Ça, ce paradoxe-là, il est insoutenable. Une des très bonnes façons de faire avancer l'économie française et de réduire les inégalités, c'est l'éducation et la formation.
Alors un mot très rapidement sur la réforme des retraites, vous ne me répondrez pas sur la nécessité de travailler plus longtemps, certainement. Un conseil pour la conférence des financeurs qui doit trouver 12 milliards?
Bon, j'ai pas donné de conseil à la conférence des financeurs parce qu'elle connaît les chiffres et on connaît un peu les diverses solutions possibles. Mais je voudrais dire deux choses très rapidement. La première, c'est que je ne crois pas que, contrairement à ce qu'on dise très souvent, la France soit un pays irréformable. Nous avons su faire des réformes dans notre vie, de l'introduction de l'euro à ces réformes sur l'emploi dont je parlais, ou au prélèvement à la source il y a un an. Et la deuxième, si vous me permettez de le dire, c'est qu'il y a souvent l'idée que les agents de la Banque de France ont des privilèges en termes de retraite. Ils n'en ont pas. Ils partent en retraite exactement au même âge que les Français.
C'est dit. Un dernier mot à propos de cet appel à un projet que vous avez lancé pour la création d'une monnaie digitale de banque centrale, monnaie numérique, un i-euro en quelque sorte. C'est une réponse au projet de Facebook, hein, le fameux Libra de Facebook. Ça vous inquiète, ça?
C'est pas tellement une réponse à Facebook que le fait que la technologie évolue et que nous voyons du côté de certaines banques un besoin effectivement de monnaie digitale, et puis nous le voyons peut-être demain du côté des citoyens. Quand vous regardez la longue histoire de la monnaie, mais je vais faire extrêmement court, les citoyens ont accès à ce qu'on appelle la monnaie de banque centrale, c'est-à-dire la qualité Banque de France et Banque européenne à travers les billets de banque. Certains pays voient l'usage des billets de banque descendre extrêmement rapidement, notamment au nord de l'Europe, la Suède ou les Pays-Bas, et ils se posent la question de savoir si demain il ne faut pas donner le droit aux citoyens à une monnaie digitale, ça n'est plus un billet physique, mais qui a la même qualité, c'est-à-dire la sécurité de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne.
Et qui doit être mise en place par les banques centrales, pas par des privés.
Alors, je crois que la monnaie, ça ne peut pas être privé. Voilà. La monnaie, c'est un bien public de souveraineté. Maintenant, c'est une réflexion que nous commençons, parce qu'elle pose énormément de questions. On va faire des expérimentations, et puis nous allons étudier ça ensemble à l'échelle de ce qu'on appelle l'eurosystème, les 19 banques centrales nationales, dont la Banque de France. Et la Banque Centrale Européenne.
Et donc on en reparlera, parce que c'est passionnant. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, merci d'être venu dans On n'arrête pas les coups.
Merci.
Et rebonjour Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.
Bonjour Yves.
Donc Anna est professeure des écoles et elle voudrait changer de métier. Est-ce qu'elle doit choisir la démission ou bien la toute nouvelle rupture conventionnelle de la fonction publique?
La grande différence, Anna, entre la démission et cette rupture conventionnelle ouverte aux fonctionnaires depuis début janvier, c'est bien sûr l'accès aux indemnités chômage. Dans le privé, depuis novembre, les salariés qui démissionnent pour monter un projet peuvent toucher une allocation, à condition de passer par un certain nombre de barrages qui prennent du temps. Qui explique que pour l'instant, sur 10 000 demandes, il n'y a que 30 dossiers qui ont été acceptés. Mais de toute façon, Anna, vous n'êtes pas concernée par cette nouvelle mesure. Un agent public qui démissionne n'a pas droit au chômage. Jusqu'à présent, la démission, c'est la seule porte de sortie des profs des écoles qui n'en peuvent plus. Sur l'année 2017-2018, un peu moins de 900 enseignants ont rendu leur tablier. Ça fait 0,25% des effectifs, c'est marginal, mais les demandes sont très nettement en hausse. C'est ce que viennent de pointer des chercheuses de l'université de Bourgogne qui ont étudié les causes de ce ras-le-bol dans l'éducation nationale. Mais il y a donc une deuxième solution, la rupture conventionnelle, qui sera testée pendant 5 ans dans toute la fonction publique. Et là, les profs, les infirmières, les agents territoriaux pourront bénéficier d'une allocation chômage.
Alors, on connaît la rupture conventionnelle dans le privé. Est-ce que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent pour le public?
Dans les grandes lignes, oui. Comme dans le privé, un fonctionnaire qui part avec une rupture conventionnelle touche une indemnité. Si ça fait moins de 10 ans que vous êtes enseignante, Anna, ce sera un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté. Entre 15 et 20 ans, par exemple, c'est un demi-mois de salaire et cette indemnité, contrairement au privé, est plafonné à 24 ans d'ancienneté. Une fois que vous acceptez cette rupture, c'est fini, vous êtes radié, le divorce avec la fonction publique est consommé. Si jamais vous deviez retrouver un poste de fonctionnaire dans les 6 ans, vous seriez obligé de rembourser la somme. Alors comme dans le privé, il faut que les deux parties soient vraiment d'accord pour se séparer. Les services en tension, comme à l'hôpital, seront-ils enclins à laisser partir leurs agents? Toutes les administrations auront-elles les moyens de signer des chèques? Tout va dépendre de la pression pour faire baisser les effectifs de l'État. Nicolas Sarkozy avait déjà mis en place une sorte de rupture collective dans les services en restructuration. Elle n'avait pas marché. Cette version plus large du départ à l'amiable pourrait au moins tenter toute celles et ceux qui, comme vous, Anna, ont besoin de changer d'air.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, merci. C'est la fin de notre magazine économique. Merci à nouveau à toute l'équipe.